La religion et la philosophie des druides. Comme les hindous en Inde, les celtes de l'Antiquité divisent la société en trois classes. La classe sacerdotale, la classe guerrière et la classe des producteurs. Cette division tripartite a été conçue par les premiers indo-européens. Les druides font partie de la classe sacerdotale. Ce sont les théologiens de la religion gauloise. Ils ne sont pas vraiment des prêtres, mais ce sont eux qui tiennent les rênes du culte.
Jean-Louis Bruno, archéologue au CNRS.
Ce sont les druides qui autorisent les cultes, qui autorisent les sacrifices, et on est citoyen que lorsqu'on peut participer à des sacrifices. Donc c'est vraiment eux qui donnent la ligne, qui donnent les croyances, et qui surtout, comme César l'indique, ce sont eux qui autorisent les cultes, et surtout qui tiennent le calendrier. Et à partir du moment où on tient le calendrier religieux, on tient les rênes les plus importants du pouvoir.
Lors des cérémonies religieuses, les druides honorent une multitude de dieux. Teutates, aussi appelé Toutatis, est sûrement aujourd'hui le plus célèbre. On peut aussi citer Cernunnos, Brigantia, Belenos, Epona ou encore Lug.
Les Gaulois avaient un panthéon. Maintenant, la place précise de ce panthéon dans les croyances, notamment des druides, reste extrêmement difficile à apprécier. Et on peut se demander si en fait les druides n'allaient pas vers une sorte de panthéisme, d'une sorte de dieu unique qui serait un dieu un petit peu philosophe en quelque sorte.
Jean-Marcal, écrivain.
On a toujours dit que les druides croyaient en de multiples dieux. Mais en fait, on en arrive à conclure que c'était en fait un monothéisme. Il n'y a qu'un seul dieu, seulement on l'honore selon la fonction qu'on lui prête à un moment donné. Comme dans la religion chrétienne, où on voit Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de ci, Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela.
Les druides ne prêchent pas de dogme à leurs disciples. Plutôt que d'enseigner l'existence de saints ou de vierges, ils préféraient enseigner un savoir philosophique.
Je ne pense pas qu'il y ait une doctrine unique. Je pense qu'il y a une doctrine qui s'est unifiée. Voilà. Je pense qu'au départ, il y a eu des expériences très certainement assez diverses et surtout des influences très diverses. Il y a cette tradition qui est très ancienne. Et ensuite, il y a eu très certainement, mais on a un petit peu de mal à le mesurer encore actuellement, des influences venant de l'Orient. Donc là, on le voit notamment avec la théorie de la métempsychose. Donc les druides ont diffusé en Gaule la croyance en une réincarnation de l'âme. Or, nous, ça nous paraît un petit peu banal de nos jours, mais dans l'Antiquité méditerranéenne, ça ne l'était pas du tout. Et en fait, cette croyance n'était partagée que par trois ensembles d'individus. C'était les pythagoriciens, évidemment, les druides et les poètes orphiques.
Pomponius Mela, chorographie. Il y a un point de leur enseignement qui s'est répandu parmi le vulgaire, apparemment pour les rendre plus braves au combat. C'est que les âmes sont immortelles et qu'on mène, chez les morts, une autre vie. Ainsi brûlent-ils et enterrent-ils avec les morts des objets qui conviennent à des vivants. Jadis, on emportait aux enfers jusqu'aux registres commerciaux et au recouvrement des créances. Et ils s'en trouvaient pour se jeter de leur plein gré dans les bûchers dressés pour leurs proches, voulant vivre en quelque sorte avec eux.
Donatien Laurent, ethnologue.
Pour les Gaulois, la mort est au milieu de la vie. C'est intéressant, encore une fois, on a l'événement important de ce qu'on considère nous, comme notre vie terrestre. Pour les Gaulois, elle était au milieu de la vie, c'est-à-dire que la vie donc, se prolongeait dans notre monde, d'autant que ce qu'on avait vécu sur Terre, si vous voulez.
Cassade, me douce et gombrez en odi. Cassade, me douce et gombrez en. Gassade, me douce et gombrez en. Orwellen aur peor.
Le milieu. Pour définir la philosophie druidique, Donatien Laurent utilise la formule « sublimation du juste milieu ». Les druides refusent tout manichéisme. Dans le calendrier, les jours, les mois, les années ne commencent ni au point le plus clair, ni au plus sombre, ni au plus froid, ni au plus chaud, mais toujours à mi-distance de ces deux paroxysmes. L'emblème d'une ancienne tribu celte en fournirait une illustration. Il s'agit d'un cercle dont la surface est divisée par une sinusoïde en deux parties, l'une claire, l'autre foncée, dans chacune desquelles est clouté un point de couleur contraire. Vous avez reconnu le symbole chinois du yin et du yang, représentant ces deux principes opposés et complémentaires. Ce dessin existerait depuis plus longtemps chez les Celtes que chez les Chinois. Il semble que l'on retrouve la même philosophie dans l'Europe antique que dans l'Empire du Milieu.
On peut effectivement parler, je crois, d'un culte du centre dans la tradition celtique, comme il y en avait dans la tradition chinoise. Dans leur philosophie, il s'agissait toujours de se référer au milieu, entre le bas et le haut, entre le froid et le chaud, etc. Enfin, on s'aperçoit par tout un tas d'éléments que je ne peux pas détailler ici, que le milieu était le point important.
Mirzine, musicien et écrivain.
La tradition des druides, c'est de vénérer un cosmos en mouvement, toujours en mouvement, donc rien ne peut être fixé, la pensée évolue. Et ce qui compte, c'est le mouvement, c'est pas plus qu'un départ ou une arrivée, c'est le mouvement, c'est le voyage qu'on va faire pour aller d'un point à un autre, mais ce ne sont pas les points. Donc ça va être plus la réflexion, hein, c'est plus qu'un résultat, c'est jamais le résultat. C'est donc la relativité aussi, la relativité, l'imagination, comme on disait, et puis cette solidarité avec la nature tout entière. Bon, le triskel en lui-même est un symbole intéressant pour ça, parce qu'il signifie bien cette idée du mouvement, de la roue. On fait partie d'un cosmos en mouvement. Tout tourne autour d'axes et tout est toujours en rotation. Et donc le triskel est là pour symboliser ça, hein, ce mouvement perpétuel.
Pour les druides, le monde n'est pas stable. Tout se métamorphose et évolue. Tout n'est qu'apparence. Les contes populaires expriment très bien cette conception. On rencontre souvent des héros ou des forces maléfiques qui peuvent changer d'apparence. Merlin l'Enchanteur, on le connaît ainsi sous l'aspect d'un vieillard à la barbe blanche, mais il peut aussi apparaître sous la forme d'un enfant, d'un berger ou encore d'un harpiste et d'un poète. Tous ces visages sont peut-être réalité, mais ils peuvent aussi n'être qu'une illusion.